Louis-Marie, nous revoilà en tête-à-tête après toutes ces rencontres que vous avez faites au cours de ces derniers mercredis. Alors, parlons cinéma. Parlez cinéma, s'il vous plaît, avec vos conseils de la semaine. Quels sont-ils?
Eh bien, Jonathan, nous allons faire un tour à Cine España, le festival du ciné espagnol, et nous partirons à la fin des années 50 pour assister au tournage d'un film culte, avant de faire un saut brutal vers l'année 2025.
Alors nous y sommes en 2025, Louis-Marie, pourquoi faire un saut aussi brutal pour y arriver?
Ben c'est vrai, Jonathan, vous avez raison, mais ce n'est pas le cas d'un couple qui coule les jours heureux, des jours heureux, en 1958.
Bon, on attend alors ce soir avec impatience. Commençons par le tour que vous nous avez promis de faire à Cine España, chaque chose en son temps, Louis-Marie.
Vous dites bien, Jonathan. Cine España bat son plein depuis lundi et va trouver son point d'orgue aujourd'hui avec la venue de Rossi de Palma. Le Festival du cinéma ibérique rend hommage à cette figure emblématique de la culture espagnole en lui remettant la violette d'or, la violette d'honneur. La violette d'or, c'est pour un film. La violette d'honneur pour, je cite, l'ensemble de sa carrière et sa contribution au rayonnement international du cinéma espagnol. Rossi de Palma a baigné dans le mouvement culturel de la movida madrilène dans les années 80. Un climat de liberté artistique et d'expérimentation très fort en Espagne après la fin du franquisme. Elle commence par fonder un groupe de pop, Peor Imposible, dans lequel elle chante et danse tout en travaillant comme serveuse dans un bar à Madrid, un bar fréquenté par Pedro Almodóvar. Le cinéaste, frappé par sa beauté particulière et sa personnalité, commence par lui proposer un petit rôle dans La Loi du désir. Ce film marquera l'entrée de Rossi de Palma au cinéma. Elle deviendra l'une des chicas d'Almodovar en étant au générique de plusieurs de ses réalisations majeures au cours des années suivantes, en particulier Femme au bord de la crise de nerfs, Attache-moi Kika ou encore La fleur de mon secret. Suivra une carrière internationale qui l'amènera en France, en Italie et aux États-Unis où elle travaillera notamment avec Robert Altman. Rossi de Palma est une figure singulière du cinéma contemporain, non seulement pour ses rôles, mais aussi pour ce qu'elle incarne, l'affirmation de soi, la célébration des différences et l'alliance entre le populaire et l'artistique. Elle rencontrera donc le public ce soir à 20h au cinéma Patti Wilson de Toulouse, puis présentera en avant-première à 21h30 son dernier film, Dia de Casa, de Pedro Aguilera.
Quel est donc, Louis-Marie, à présent, ce film culte dont nous allons être les témoins du tournage?
Ce film, c'est À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Le cinéaste américain Richard Linklater a fait du tournage de ce film le thème central de son dernier opus, justement intitulé Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague reste l'une des périodes les plus emblématiques et inspirantes du cinéma français, comme la place de ses réalisateurs Truffaut, Chabrol, Romère ou Godard est unique. Nouvelle Vague, le film de Linklater s'amuse de la personnalité excentrique de Jean-Luc Godard en se concentrant donc sur le tournage d'À bout de souffle sans aborder sa vie personnelle. Né en 1960, l'année de la sortie du film, Richard Linklater aborde la Nouvelle Vague comme un point d'origine qui résonne avec son propre cinéma, la jeunesse, la désinvolture, l'amitié et la quête d'une liberté formelle. Le cinéaste américain recrée avec humour et énergie les journées chaotiques ayant mené à la naissance d'un film culte. Il rend ainsi hommage à la liberté créative et à l'esprit collectif des cinéastes de l'époque, soulignant la ferveur et la camaraderie qui animaient cette génération. Il fait du tournage d'À bout de souffle une aventure partagée, terrain propice à l'improvisation, aux tensions et aux innovations. Servi par une judicieuse distribution d'interprètes ressemblant à leur modèle sans pour autant les caricaturer, Nouvelle Vague est une comédie cinéphile et pop, une ode à la créativité. Richard Linklater y exprime un amour sincère pour le cinéma tout en refusant la nostalgie et la sacralisation. Il prouve qu'on peut parler des mythes sans les figer et que l'esprit de la Nouvelle Vague, celui de l'audace, du jeu et de la liberté, peut encore inspirer le cinéma d'aujourd'hui.
Thank you. et c'est le moment du saut en 2025, Louis-Marie. Que va-t-il nous arriver ?
Eh bien, nous, rien, Jonathan. Mais il n'en est pas de même pour Hélène et Michel, les personnages centraux du film de Vinciane Milhaud, « C'était mieux demain ». Le couple et leurs deux enfants coulent des jours heureux dans cette insouciance des années 50. Un événement va bousculer les valeurs de cette apparente famille modèle. Les tensions sont telles qu'un soir, une dispute éclate à propos d'une machine à laver qu'Hélène a gagnée et que Michel veut vendre pour acheter une télé. La vive altercation autour de l'appareil se termine par leur électrocution. À leur réveil, ils découvrent qu'ils ont été propulsés en 2025. Pour Hélène, qui a toujours vécu comme il se doit dans l'ombre de son mari, c'est une révolution, mais pour Michel, qui voit ses privilèges d'homme voler en éclats, c'est un cataclysme. Quelles étaient les intentions de Vinciane Milhaud, la réalisatrice, quand elle a écrit avec Julien Lambroschini, son co-scénariste et compagnon à la ville, cette comédie drôle est plutôt maligne. Vinciane Milhaud.
Moi, mon envie, c'était pas de faire un film féministe parce que je suis pas du tout militante et je pars du principe que, étant femme, je suis féministe. Mais moi, je vis avec le scénariste depuis 30 ans qui est très féministe, qui est très quelqu'un de très doux, etc. En fait, le point de départ, c'était de parler des rapports hommes-femmes. Comme c'est un thème qui a été tellement employé au cinéma, vu et revu, Julien Lambroschini m'a dit, mais t'as toujours adoré les films avec de la magie, parce que moi j'ai été élevée dans les années 80 avec des E.T., des Retours vers le futur, etc. Donc il a pensé au voyage dans le temps, que j'ai trouvé génial, parce que évidemment on pouvait parler de la condition de la femme, étant femme je voulais absolument l'aborder, mais pas que. En fait, l'idée c'était de parler des rapports hommes-femmes, de se servir du voyage dans le temps comme un prétexte, mais aussi d'aborder d'autres sujets comme, même si c'est l'avènement de la femme, les années 2025, c'est aussi la perdition de l'homme, mais c'est aussi le rapport à l'homme, à son rapport à la famille, à la femme. Et je pense que c'est un voyage initiatique de chaque personnage qui, se connaissant mieux et apprenant à se découvrir eux-mêmes, vont mieux s'aimer. À la base, c'est un couple qui s'aime quand même.
Au centre du film, il y a donc Hélène et Michel, un couple caractéristique des années 50 qui mène une vie tranquille jusqu'au jour où ils sont projetés en 2025. Ce choc temporel engendre une succession de situations drôles et absurdes. Hélène découvre l'émancipation et la liberté moderne, tandis que Michel, déstabilisé, perd ses repères et privilèges de son époque. Elsa Zilberstein et Didier Bourdon incarnent avec justesse et complicité ce duo confronté à un monde en pleine mutation. Entre humour, tendresse et réflexion, le premier film de Vinciane Milhaud explore les différences entre passé et présent tout en offrant une portée universelle sur l'évolution des mentalités et des rapports hommes-femmes. « C'était mieux demain » est une comédie drôle et intelligente.